RCF.
Bonjour. Je suis Thierry Lyonnais, grand reporter à RCF, et la marche est depuis des années l'activité que je préfère. Alors je suis allé tendre mon micro à des marcheurs, hommes, femmes, célèbres ou moins connus, qui eux aussi ont cette même passion pour la marche. Marche et rêve, un podcast pour tous ceux que l'envie de liberté démange. Si la marche était un merveilleux moyen de se connecter spirituellement, un facilitateur de contemplation, de prière, de gratitude ou de discernement. Charles Wright, merci de nous accueillir en pleine nature, alors non pas sur un chemin de randonnée, mais dans un petit ermitage en pierre et en bois, à la limite de l'Ardèche et des Cévennes. Un lieu où vous vivez depuis cette traversée du Massif Central que vous avez réalisée d'Angoulême à l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, une marche que vous avez racontée dans votre livre « Le chemin des estives » publié chez Flammarion. Alors cette marche que vous avez vécue il y a 2-3 ans maintenant, quand vous étiez novice jésuite, eh bien cette marche s'inscrit dans une ancienne tradition de la Compagnie de Jésus que l'on appelle le mois mendiant. Vous pouvez nous expliquer la particularité de cette marche ?
Oui, c'est Ignace de Loyola, quand il a fondé la compagnie, il voulait que les futurs recrues passent, plutôt que d'apprendre les choses de façon livresque dans les livres, fassent l'apprentissage par corps et intériorisent les choses plutôt que d'avoir un savoir purement cérébral. Donc on passe au noviciat des jésuites par toute une série d'expériences, la retraite des 30 jours, du temps avec les clochards et les pauvres, les malades, et ce qu'on appelle le mois mendiant, M-O-I-S, c'est-à-dire on part à deux avec un novice qu'on n'a pas choisi, pendant 30 jours, sur un lieu de pèlerinage, et sans argent, sans tente, sans téléphone portable, vraiment complètement dépouillé. Et l'idée, c'est de faire l'apprentissage de la pauvreté, de la providence, mais vraiment concrètement, d'en faire l'expérience concrète.
Et en marchant, le but est de marcher sur un lieu de pèlerinage, forcément sur un lieu de pèlerinage, ou c'est surtout le fait de marcher? Parce que vous, vous êtes parti d'Angoulême à Notre-Dame-des-Neiges. On peut pas dire que ça soit un chemin de pèlerinage bien connu. C'était pas Compostelle ou c'était pas le Trobrez.
Non, mais c'est bien de marcher vers un but. Donc, mais après, on peut se fabriquer son but. Nous, on était très libres, en fait. L'idée, effectivement, c'est de marcher pendant 30 jours. Nous, avec mon camarade Parsac, on avait envie de marcher sur les pas de Charles de Foucauld. Donc, on s'est dessiné notre propre itinéraire. Mais l'idée, c'est de cheminer ensemble pendant 30 jours avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi et d'essayer d'arriver ensemble, sans trop s'entretuer.
Alors quel est le but d'une telle expérience de marche, puisque c'est le thème de la marche qui nous intéresse en particulier? Quel est le but d'une marche pareille?
Le but, en tout cas officiel, si j'ose dire, du maître de novice, une fois encore, c'est vraiment de faire l'expérience de la pauvreté, de l'abandon, de la providence, de la confiance, donc d'intérioriser toutes ces vertus, d'être nu comme des vers et de voir ce qui se passe quand on est comme ça démuni, dépouillé. C'est ça le but officiel. Après, il se passe d'autres choses qui sont plus liées à nos équations personnelles.
Est-ce que c'est surtout le fait de ne rien avoir, puisque vous partiez en pèlerin mendiant, quelque part? Donc vous, c'est un choix d'une marche particulière. Ce n'est pas une marche avec des étapes bien arrêtées, bien établies. Vous marchez et vous n'avez rien. Vous ne savez pas où vous allez dormir, vous ne savez pas ce que vous allez manger.
Oui, c'est faire un peu l'apprentissage du dépouillement. De la soustraction.
Total, parce que la marche en général, c'est déjà une forme de dépouillement, on s'allège.
Là, c'est un dépouillement au carré. C'est vrai qu'on vit dans des époques où on nous pousse un peu à accumuler des objets, des choses dont on n'a pas besoin. Dans une marche, on apprend à se soustraire des futilités, des inutilités. Et nous, c'était au carré parce qu'on est vraiment parti sans rien. Et donc, on prend conscience au fil des jours, peu à peu, à la fois qu'on complique beaucoup trop nos existences. Parce que finalement, dans une marche, on part avec rien, on part avec le strict nécessaire, la nourriture est assez frugale, et on réalise au fil des jours, finalement, que ça suffit, qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre intensément, pour vivre joyeusement. Donc il y a cet apprentissage du dépouillement, et qui est à mon avis très important.
Vous aimez bien, Charles Wright, ce que vous appelez les vagabonds célestes. Vous en parlez dans votre livre, vous les énumérez. Il y a Benoît Labre, il y a Charles de Foucault, mais il y a aussi Kerouac, Rimbaud. Qu'est-ce qu'il y a chez ces marcheurs de l'absolu que vous aimez particulièrement?
Il y a beaucoup de choses qui m'attirent chez ces gens-là. Peut-être cette idée, finalement, vous savez, on se comporte souvent en propriétaire un peu terrien. On s'installe, on s'établit. Et ces gens nous rappellent finalement que les choses qui comptent dans une existence, Dieu pour Charles de Foucault, Benoît Labre, le Christ pour Kerouac, je ne sais pas, l'absolu, la vérité, l'amour, toutes ces choses qui comptent, en fait, on ne peut pas mettre la main dessus. On peut pas, ça nous échappe. Et donc, il faut partir. Il faut sans cesse partir, sans cesse se remettre en avant, sans cesse marcher. Et c'est la phrase de Certeau, « Est mystique celui qui ne peut s'arrêter de marcher ». Et je crois qu'il y a ça qui m'attire chez ces gens-là. Et l'autre chose aussi, c'est, si vous voulez, cette idée que on part marcher parce qu'on éprouve au fond de soi une sorte de nostalgie d'une plénitude. On a le sentiment qu'il nous manque quelque chose. Et on part, on se met en marche pour partir à sa recherche. Et je pense que chez tous les randonneurs, pas uniquement chez ces vagabonds célestes qui sont un peu extrêmes et un peu radicaux, mais chez chaque marcheur, même si on se l'avoue pas, il y a cette espèce de démangeaison d'inconnu. L'idée que on est au fond de soi attiré par un pays comme ça qui nous appelle et qui fait qu'on peut, il faut sans cesse partir, sans cesse se remettre en route, sans cesse marcher.
Mais qu'est-ce que ça nous apporte finalement d'essentiel d'être déraciné? Parce qu'on le voit, beaucoup d'humains ont envie de prendre racine quelque part. Et là, le marcheur coupe ses racines et se met dans une situation de, oui, de fragilité par l'inconnu.
Ça nous rappelle une sorte de vérité existentielle, humaine, que la condition d'un être humain, c'est d'être, la condition métaphysique d'un être humain, c'est d'être un pèlerin, d'être un marcheur, voilà, c'est tout.
Nous sommes tous de passage,
exactement.
Nous sommes tous pèlerins.
Et la marche nous rappelle ça. Je crois que derrière, vous savez, quand on marche, qui est très difficile, moi j'ai remarqué ça, c'est de s'arrêter. Moi, je me forçais les dimanches à m'arrêter, parce qu'on est pris comme ça par l'envie de déguerpir. Et je me suis souvent demandé vraiment ce qu'il y avait derrière cette espèce d'appétit de l'espace, cette avidité de l'espace. Et il y a, je crois, ça, c'est-à-dire cette idée, une fois encore, que la terre promise, le bonheur, le royaume, c'est une promesse, c'est toujours devant nous. Et donc cet appel à sans cesse se remettre en mouvement, se repartir, s'expatrier de ses certitudes, de ses habitudes.
Charles Wright, on a parlé de ces vagabonds célestes. Jésus, pour vous, est un marcheur, un vagabond céleste?
Bon, il a passé 30 ans, faut pas oublier, de stabilité. Mais effectivement, moi, le Jésus qui me parle, c'est celui qui est sur les routes.
Les autres trois années, celle où il a arpenté les routes sans arrêt, finalement. Il marchait sans arrêt.
Exactement. Jésus. Et ce qui me touche, moi, chez la figure du Nazaréen, c'est que c'est l'homme, justement, qu'on peut pas saisir. Il y a un passage de l'évangile qui est très beau, où il retourne dans son village, c'est-à-dire dans le lieu de l'enracinement. Il retourne chez les siens et il est très mal accueilli. Et il y a cette phrase très courte, et lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. C'est-à-dire que c'est l'homme qui échappe, c'est l'homme qu'on ne peut pas réduire à ses déterminations, à son enracinement culturel. Voilà, il est toujours plus loin, il passe. Et il nous rappelle que la condition humaine, c'est celle d'être des passeurs et des pèlerins.
Jésus, c'est vraiment l'homme qui marche?
Oui, tout à fait. C'est l'homme qui marche, et c'est l'homme qui marche en faisant du bien. C'est pas une fin en soi de marcher, c'est-à-dire... c'est l'homme aussi qui marche et qui fait marcher les autres. C'est ça aussi qui est beau. Hein. Mais c'est les deux. C'est à la fois cette vérité humaine et en même temps ce souci de l'autre.
Mais l'homme qui marche à la fois fait rêver les sédentaires parce qu'il y a comme l'expression d'une liberté. Et en même temps, on se méfie de ces hommes qui marchent, de ces vagabonds. Comment expliquer ce paradoxe que l'on peut avoir quand on voit passer ces gens qui marchent? Et qui à la fois nous attirent et nous font peur.
Bah, écoutez, je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, je peux vous dire que, je peux témoigner de l'expérience avec Parsac. De fait, on a eu les deux, c'est-à-dire à la fois beaucoup de méfiance initiale, parce que c'est l'inconnu et qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de celui qui se présente sous la forme de l'étranger. Et en même temps, une fois qu'on arrive à nouer contact et qu'on est accueilli par les gens, eh ben, c'est des rencontres extraordinaires. Il y a ça aussi qui est beau dans les voyages, c'est l'intensité des rencontres, qui sont intenses précisément parce qu'elles sont sans lendemain. Et du coup, il y a comme une épiphanie comme ça, et il se passe des choses extraordinaires.
Mais on le voit bien dans votre livre, Le chemin des estives, vous marchiez toute la journée et puis vous vous arrêtiez pour demander de l'eau, demander de quoi manger et demander un endroit pour loger. Et les accueils ont été très très différents, très différents.
Tout à fait. Mais avec le recul, alors effectivement, on a reçu un peu les deux. On a reçu d'abord des accueils parfois un peu rudes, un peu humiliants.
Des regards qui
déshabillent, qui salissent. Mais on a aussi reçu des accueils merveilleux. Et avec le recul du temps, parce que la marche, je l'ai faite il y a 2 ans ou 3 ans même maintenant, ce dont je me souviens surtout, c'est la bonté dont on a été l'objet. On parle souvent de la banalité du mal. Quand on marche comme ça, nu comme des vers, à la merci des autres, on fait l'expérience aussi de la banalité du bien.
Et on... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben, tout ce bien qui est là, qui se fait très silencieusement chez les gens, dont on n'entend jamais parler.
Et souvent les gens simples, hein, je me souviens. Vous avez eu quelques refus assez hautains, je me souviens, d'un certain milieu social élevé.
Oui, mais on ne va pas raviver la lutte des classes. Mais c'est vrai que c'était souvent chez des paysans, des petits artisans, des petits fonctionnaires, des gens simples, mais des accueils absolument... merveilleux, des gens qui nous ouvrent tout, leur frigidaire, mais surtout leur cœur, des femmes seules qui accueillaient deux barbus avec des allures de mendiants girovagues atroces et qui nous ouvraient les... Enfin, c'est merveilleux de faire cette expérience-là. Ça réconcilie avec l'humanité.
Vous avez écrit à un moment, Charles Wright, « Le chemin nous enseigne la sobriété ». J'aimerais bien que vous creusiez un peu cet aspect, parce qu'on est dans une société où... C'est pas la sobriété qu'on met en avant, même si on se dit oh, il faut vivre plus sobrement. Mais en quoi la marche, le chemin nous enseigne la sobriété ?
Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on part avec le strict nécessaire, un sac à dos, on n'a rien. Il y a aussi un dépouillement identitaire, on n'en parle pas souvent, mais on quitte ces assignations sociales. On n'est plus personne quand on marche. Tout ce qui farde nos cartes de visite, il n'y a rien qui ressemble plus à un marcheur. Donc il y a cette pauvreté-là. On donne au corps juste ce qu'il faut. Donc il y a vraiment, on s'appauvrit, on se dégraisse, on perd son embonpoint un peu existentiel. Et voilà, on fait l'expérience finalement qu'avec très peu de choses, on est heureux. Et même que les joies sont certainement redoublées dans ce dénuement. Quand on a marché 2-3 heures et qu'on découvre qu'on boit de l'eau d'une source... Bon, ben on a l'impression de boire du champagne ou une tranche de saucisson devient du foie gras aux truffes. Enfin, donc on retrouve un peu cette espèce de joie toute simple.
Sans tomber dans les caricatures, vous avez connu, on va pas raconter toute votre vie, je renvoie à l'émission Visage qu'on avait réalisée ensemble, mais vous avez connu les ors de la République, les cocktails, les champagnes et tout ce que vous venez de décrire, et vous avez connu cette forme de marche dans la mendicité. Vous avez connu plus de joie dans ce mois de marche dans le grand dépouillement que sous les ors de la République ? Très sincèrement.
Alors, il faut savoir que dans notre marche, dans notre mois mendiant, on a quand même réussi à boire du champagne et du foie gras chez la sous-préfète de Saint-Flour qui nous a invités. Donc, les ors de la République étaient quand même présents.
Mais, exceptionnellement.
Oui. Oui. Parce que je pense vraiment que la joie vient plus par l'allègement, par le décapage, par le dénuement que par l'accumulation des objets. C'est difficile à décrire, mais c'est une vérité existentielle qu'on découvre quand on marche comme ça, au long cours, sans rien.
Et ça a influé sur vos choix actuels ? Vous avez fait le choix d'une vie simple, beaucoup plus simple. Vous pensez que ça s'enracine dans cette expérience de marche dans la grande pauvreté que vous avez vécue ?
Oui, très certainement.
Parce que là, on fait l'enregistrement dans un petit cabanon, très simple, en pierre, en bois, en pleine nature. Vous avez fait ce choix, au moins pour un temps, de vivre très pauvrement, un peu à la Thoreau.
Oui, très pauvrement. En même temps, je me demande si c'est pas le vrai luxe. C'est-à-dire que j'ai du temps, j'ai de la beauté, je me shoote à de la beauté tous les jours.
La beauté du paysage qui nous entoure.
Y a tout ce qu'il faut. Mais oui, cette marche m'a converti j'ai ressenti, mais c'est aussi l'action des paysages, qui sont des paysages très dépouillés dans le Massif central, très âpres. Et ça m'a converti à une existence beaucoup plus simple, beaucoup plus dépouillée, beaucoup plus resserrée autour de l'essentiel. Et de fait, je me partage maintenant entre un petit studio à Paris, la plupart du temps ici en Ardèche, dans une vie un peu rustique, avec, dans la nature, où on peut éprouver un peu charnellement la réalité. C'est ça qui m'a attiré aussi.
Marche et rêve, un podcast sur les bienfaits de la marche et pour tous ceux que l'envie de liberté démange.
Charles Wright, est-ce que l'on peut dire que la marche est une pratique spirituelle ?
Je pense qu'on peut dire ça, même à mon avis c'est une pratique hautement spirituelle, mais vous dire pourquoi c'est pas si simple. Ce qui est sûr, et ce que je peux vous dire moi comme témoignage, c'est que je suis parti de ma marche. Quand je suis parti, j'étais dans un état assez lamentable, c'est-à-dire une sorte de déprime, le sentiment d'un ratage total de mon existence. Enfin, vraiment, j'étais pas en forme. Hein. Et un mois de plein vent, de grand air, m'a vraiment restauré, rétabli, je sais pas si on peut dire ressuscité, mais en tout cas remis sur orbite. Et je pense qu'il y a dans la marche une dimension très initiatique, très transformante, très ressuscitante, que ça enclenche en nous des métamorphoses très profondes.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en fait, qui nous permet cela ?
Alors, il y a plusieurs ingrédients, il y a beaucoup de choses. Déjà, je pense cette chose toute simple, c'est que la marche chasse les idées noires. C'est une sorte de... C'est une machine à produire de la vitalité, de l'élan, de l'allant. C'est une usine à énergie vitale, la marche. C'est-à-dire qu'il suffit de marcher 2-3 jours, tout exulte en soi. C'est-à-dire que la vie perfuse dans les jambes, la joie crépite. Enfin, il y a quelque chose qui est... C'est de l'amphétamine. Il y a un effet grisant, euphorisant de la marche. Ça, c'est sûr.
Ça, c'est physique et psychologique.
Oui, mais aussi, c'est important, c'est qu'on se rappelle de cette chose qui est hautement spirituel, qui est un corps. On se rappelle qu'on a un corps. Et ça nous rappelle aussi cette vérité chrétienne dont on n'entend pas souvent parler, mais c'est que les choses les plus hautement spirituelles se donnent, à mon avis, dans ce qu'il y a de plus corporel, de plus charnel. Donc reprendre contact avec son corps, toucher terre, c'est très très important. Et puis, l'autre chose qui est vraie, c'est que c'est aussi une rupture, c'est-à-dire quoi, c'est une forme de retraite finalement, une marche. On échappe souvent à l'étau citadin, et ça fait du bien. Il n'y a pas de mot dans la langue française pour décrire ce besoin, moi, que j'éprouve très souvent, qui est le besoin de s'espacer. Les chartreux parlent de spaciment, voyez. On a besoin de s'espacer, prendre de l'espace. La marche permet ça. C'est une rupture aussi avec l'actualité. Et quand on coupe avec l'actualité, presque aussitôt, enfin très vite, il y a quelque chose en soi qui respire, qui s'allège, qui se dilate. Voilà. Et puis, il y a aussi le contact avec la beauté. La beauté, c'est pas rien de se shooter à la beauté. La beauté, ça nous ouvre sur l'au-delà, ça nous fait quitter notre ego.
La beauté de la nature, surtout.
La beauté de la nature, bien sûr. Ouais. Donc il y a tous ces ingrédients qui concourent à faire en sorte que ça soit une expérience transformante et spirituelle.
Et est-ce que l'on prie mieux quand on marche, quand on est croyant et qu'on pratique la prière ? Est-ce que la marche participe à une prière autre ? Que celle d'être dans une église ou dans une chapelle.
On parlait de dépouillement tout à l'heure. Moi, je suis parti aussi avec un désir de dépouillement spirituel, c'est-à-dire une forme de un peu de saturation par rapport justement au discours spirituel, à la glose un peu ecclésiale, un peu spirituelle. Et de ce point de vue-là, la marche est formidable parce que on retrouve un contact, ce que je cherchais moi, un contact très 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 très, très concret avec la réalité dans sa nudité native, dans sa simplicité native, l'être là des choses, voilà. Et c'est une prière à mon avis, c'est ce que Teilhard appelait la messe sur le monde, la liturgie du réel. Tout est là, en fait. Et les mots deviennent presque profanatoires. Il n'y a pas besoin. On reprend contact avec ce qui luit au cœur de la matière, dit Teilhard aussi. J'aime beaucoup cette expression. Et oui, c'est une prière permanente, mais qui ne passe pas par les canaux habituels. Vous savez la phrase de Maître Eckhart, « Je prie Dieu qu'il me délivre de Dieu ». Dans une marche, on est au contact de Dieu, mais c'est une prière qui n'est plus canalisée par les formes officielles. Mais c'est une prière, évidemment.
Là encore, il y a une forme de dépouillement presque extrême de tout ce que l'on a pu élaborer, construire comme formule sur Dieu.
Tout à fait. On se dégraisse, on s'appauvrit, y compris spirituellement, et on retrouve la majesté du réel, si vous voulez, la flamme des choses, ce qu'il y a au cœur de puis c'est aussi les visages, la rencontre avec les visages, mais c'est tout ça qui devient une matière à prière.
Mais on le sait, un des obstacles dans la prière, c'est l'agitation mentale. Quand on marche, qu'est-ce qu'il se passe au niveau du mental ?
Mais il se passe plusieurs choses. À la fois, paradoxalement, souvent, on se surprend. Vous savez, l'esprit, comme vous dites, c'est un moulin, ça tourne sans cesse. Donc on se surprend à tourner des bouts de phrases, parfois, sans signification, voilà, comme un disque rayé. Donc il y a ça, parfois, quand on marche. Mais il y a aussi ce dont on fait l'expérience dans le silence, c'est-à-dire, dans le silence, on devient des éveillés. On devient des voyants, c'est-à-dire que tout s'illumine. C'est très frappant, ça. Et ça, c'est, pour moi, l'attention, l'écoute, c'est une forme de prière très profonde. Moi, j'ai des souvenirs très très forts, notamment dans les forêts de Creuse ou de Dordogne, justement, où le silence est hyper dense, et tellement dense qu'on se met à baisser d'un ton, comme dans un cloître végétal. Et là, parce que le silence, c'est pas l'absence de bruit, hein. Au contraire, il y a tout le temps un murmure, mais c'est une certaine qualité de présence. Et d'un seul coup, il y a tout le monde, tous ces infiniment petits bruits qui étaient comme ça un peu endormis dans les coulisses du silence qui se réveillent. Le craquement d'une branche, un ruisseau qui cascade et tout ça. Donc on devient, tout ça, ça s'ouvre et ça s'illumine.
Ou un avion qui passe.
Ou un avion
comme
qui passe.
Comme vous voyez, même ici, dans cette région,
tout à fait.
Il y a les avions qui passent. Oui. Et quand on marche, ils sont là aussi.
Ils sont là. Oui. Mais on prend conscience, si vous voulez, contrairement à l'expression « faire silence », on dit « faire silence », comme si c'était à créer. Non, dans une marche silencieuse dans la nature, on prend conscience que le silence, il est toujours là. Il est toujours au cœur des choses. Et finalement, il y a moins à le créer qu'à le laisser affleurer et à se faire un peu saisir par lui.
Right, tout à l'heure, vous avez cité cette phrase du jésuite Michel de Certeau, « Est mystique celui ou celle qui ne peut s'arrêter de marcher ». Comment comprendre cette phrase ?« Est mystique celui ou celle qui ne peut s'arrêter de marcher ». Comment vous la comprenez ?
Un peu comme ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'on ne peut pas s'établir, si vous voulez, la vie spirituelle, c'est le contraire d'une mentalité de propriétaire terrien. Dès qu'on s'arrête, on meurt finalement. C'est comme la manne dans l'Ancien Testament, quand on veut la thésauriser, l'arrêter, ça pourrit. Donc il faut sans cesse s'expatrier de ces certitudes. On pense souvent qu'on est arrivé, qu'on est établi, qu'on détient la vérité, mais la vérité, d'une part, c'est elle qui nous détient, et d'autre part, on ne peut pas la posséder. Et donc dans la vie spirituelle, à mon avis, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que c'est une marche incessante. On n'est jamais arrivé. Et c'est cette... La marche est une allégorie ou une métaphore de cela.
En fait, c'est un chemin de transformation en permanence, la marche. Et c'est à l'image de la vie.
Oui.
Vous voyez ça comme ça?
Moi, je vois la marche effectivement comme une petite métaphore d'un pèlerinage humain. On passe par des... C'est comme un précipité, au fond, d'une existence humaine. On passe... Et puis, c'est quelque chose qui exacerbe toutes les sensations, toutes les émotions, c'est comme un concentré d'une existence, en fait. Ouais. Et puis, une fois encore, à mon avis, c'est vraiment une image de ce que c'est que la vie spirituelle, c'est-à-dire une école de la démaîtrise, et puis de la confiance aussi. Parce que c'est le lieu où il faut faire confiance dans une marche, où on s'abandonne à ce qui advient, à ce qui est inconnu, à ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et parfois, ce sont des événements heureux, parfois, c'est des événements malheureux. Voilà.
Et est-ce que ça aide au discernement, la marche ? Puisqu'on sait combien, chez les jésuites, le discernement est quelque chose d'important. Souvent, ils proposent des retraites, mais des retraites fixes, des retraites spirituelles, avec tout l'enseignement de saint Ignace autour des fameuses grandes retraites de 30 jours. Mais est-ce que la marche est le moyen de nous aider quand on a des discernements à poser ?
C'est un endroit où on peut se retrouver. C'est un endroit où, comme je disais tout à l'heure, on peut faire retraite par rapport au vacarme et renouer un peu avec soi, renouer avec... vous savez, c'est un peu comme un sculpteur comme ça, qui prend un morceau de bois et qui enlève les copeaux. Et à la fin d'une marche, on retrouve sa forme première. Moi, c'est l'expérience que j'ai faite. Il y a des vérités sur soi qui émergent au fil du temps, dans ce dépouillement dont on a parlé tout à l'heure, dans cet élagage. C'est comme un élagage. On se dégrossit et on retrouve sa forme. Donc on retrouve son désir. Donc je pense effectivement que ça aide grandement. Plus le silence, plus la beauté, plus toutes ces choses très favorables, plus les rencontres qui nous aident aussi. Oui, oui.
Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut pratiquer régulièrement, cette marche? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit vivre une fois, on fait une grande expérience d'un mois par exemple, ou de 2 mois, et puis finalement ça suffit, il ne faut pas toujours rechercher à le vivre et à le revivre?
Alors moi je sais pas, je suis pas un très grand marcheur, je pense que ça dépend un peu de l'équilibre de tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que en cas de coup de blues, moi mon médicament c'est de partir une journée comme ça, randonnée. La vitalité revient, en fait, c'est impressionnant comme ça, ça permet de se... C'est un médicament, c'est vraiment un médicament, c'est un antidépresseur, c'est un anxiolytique. Voilà, donc partir régulièrement. Moi, je suis pas un très très grand marcheur, mais quand ça va pas, je pars. Et puis, ce qui est formidable avec la marche, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit. On passe son temps à mesurer ce qui nous manque, sans prendre conscience qu'on a à notre disposition des instruments de gratuité extraordinaires, nos jambes, notre regard, les paysages coûtent rien, c'est libre de droit. Voilà, c'est merveilleux, tout est donné. Ça aussi, c'est un fruit de la marche. J'en parle dans mon bouquin, l'esprit de gratitude. Se rendre compte que tout est donné, tout est là, en fait, tout est gratuit. Voilà, il y a juste à être présent, à en prendre conscience et à se servir en un sens. Et puis à entrer soi-même aussi un peu dans ce mouvement de donation. Il y a un moine que j'aime beaucoup, je ne sais plus comment il s'appelle, qui dit qu'il y a un carpe diem chrétien. C'est-à-dire non pas cueillir les fruits défendus, ce qui est défendu, mais cueillir ce qui est donné. Voilà, et donc la marche nous fait rentrer, à mon avis, très profondément dans cet esprit de gratitude, d'émerveillement, de bénédiction. Et c'est plus, je me demande si c'est pas ça le sommet de la vie spirituelle.
Merci beaucoup, Charles Wright, de nous avoir accompagnés sur un petit bout de chemin pour nous aider à mieux comprendre les bienfaits spirituels de la marche. Et puis je renvoie vraiment à votre livre que vous avez publié chez Flammarion et qui vient de sortir en livre de poche, Le chemin des estives. Merci de votre accueil dans cet ermitage au cœur de l'Ardèche.
Merci Thierry, merci à vous.
Vous venez d'écouter Marche et Rêve, un podcast produit par RCF. Pour découvrir d'autres parcours de marcheurs, rendez-vous le mardi à 8h sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts que je vous recommande, Souffle de vie, Les colères de l'abbé Pierre, La Fontaine et d'autres à découvrir partout, tout le temps, même en marchant. Bonne écoute et à très bientôt au détour d'un sentier ou sur les ondes.